au courrier des théâtres, c'est très simple.
C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre.
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir.
Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche.
Roi des pitres, hors de scène à l'instant.
Mais parce que toute sa vie, parler en alexandrin ou cuisine, ça lasse.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Mais d'où vient qu'il ait pris de cette fantaisie?
Nous allons le savoir dans 5 minutes.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission de levée de rideau un peu particulière car nous ne sommes pas au théâtre mais nous sommes dans un atelier de lutherie, celui de Marc Genevrier. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors nous étions vus il y a quelques années, mais là vous allez parler d'un événement particulier qui est dans le Festival des Volks, la 5e édition, qui est une nouveauté. Chaque année il faut faire du nouveau, n'est-ce pas? Donc le mercredi 6 décembre à la salle Théris de Daudet, de 12 à 18 heures, vous animez ce qu'on va appeler quoi? Une exposition, une rencontre?
Oui, c'est surtout dans l'esprit d'une rencontre.
D'accord. Oui, partager oui. Votre passion, faire connaître, faire découvrir.
Voilà, c'est ça. C'est cohérent, je crois, avec l'esprit du festival et de beaucoup de musiciens qui participent, qui s'intéressent beaucoup et s'interrogent aussi aux instruments les plus adaptés pour chaque œuvre. Mmh. Donc évidemment, le luthier a son rôle à jouer. Là.
Il n'est pas là que pour réparer, il est là aussi pour donner du corps à un instrument.
Ah oui, puis préparer éventuellement en fonction des époques et des répertoires voilà. Qu'on va jouer.
Donc on va développer tout ça dans cette émission. On écoutera bien sûr de la musique avec des cordes, puisque c'est votre métier.
Oui. Oui,
oui. Et puis nous avons avec nous une jeune service civique qui vient d'arriver, Mia, bonjour.
Bonjour.
Qui est aussi, de façon annexe, c'est très important puisque c'est depuis 8 ans, violoniste et altiste, non c'est l'inverse,
c'est
altiste puis violoniste au conservatoire. Et nous avons aussi Dorian, également en service civique, qui est derrière sa caméra pour faire des photos. Et il y a de quoi faire de très belles photos ici dans votre atelier. Vous vous sentez bien dans cet atelier, Marc?
Ah oui, moi je me sens très bien, oui, oui, oui. Vous voyez la pile de copeaux d'érable qui est devant vous. Un jour, je vais faire une série de photos avec toutes les formes de copeaux qu'on produit pendant la fabrication d'un instrument. Parce que selon l'outil, selon le bois, ils peuvent avoir plein d'aspects différents. C'est très beau.
Alors, lors de cette rencontre, de 12 à 18 heures, ça veut dire que vous êtes là pendant toute cette durée de temps, cette entrée libre, on vient, on regarde.
Voilà, c'est ouvert absolument à tout le monde, grâce à l'amabilité, à l'accueil du lycée Daudet. Donc, nous serons là avec naturellement des instruments terminés. Des instruments modernes et des instruments baroques, des archets de différentes époques, en particulier pour les musiques anciennes, et puis des outils, des morceaux de violon pas terminés, des morceaux de bois, des documents aussi sur l'entretien de son violon ou l'utilisation de son archet, enfin voilà. Et essayer d'apporter le maximum d'informations possibles et de stimuler un petit peu les visiteurs.
C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour faire un peu de publicité lors de cet événement donc, du Festival des Volks. Et bien, toi qui es violoniste et altiste, quelle est la première question qui te vient à l'esprit quand tu es face à Marc?
Alors du coup, moi, la première question qui me vient, ce serait de savoir quelle est la différence entre les cordes qu'on utilise pour jouer justement du baroque, savoir les cordes en boyau, et les cordes qu'on a actuellement sur nos instruments.
Alors, on verra peut-être cela à travers des extraits musicaux, peut-être.
Voilà, hein. Oui, oui.
Parce qu'avant, je me rends compte que nous n'avons pas parlé de Nicolaus Hoffmann.
Voilà, on a dit deux. Nous serons. Mais nous serons donc deux luthiers. Deux. Hein, on a la chance, dans le Gard, d'avoir depuis quelques années, c'est assez récent, Nicolaus Hoffmann, qui est d'origine allemande, qui est luthier, qui est maintenant plutôt spécialisé dans la fabrication d'instruments, mais qui pendant très longtemps a été un des restaurateurs les plus en vue en Europe, qui travaillait pour de très grandes maisons sur des instruments extrêmement prestigieux, avec des restaurations qui peuvent durer des semaines et des mois. et un certain stress aussi, hein, de travailler sur des objets aussi coûteux.
Des œuvres d'art, du patrimoine aussi.
Donc il sera là avec ses créations et avec toute sa gentillesse également pour expliquer son travail très spécialisé au moins à une époque. Ouais.
Ça fait rêver, hein, peut-être. Vous, quel est l'instrument le plus ancien que vous ayez eu entre les mains ?
Alors moi, j'ai eu entre les mains un violoncelle qui devait avoir 400 ans à peu près.
Oui, et alors, ça vous stressait ?
Pas tellement, parce que ce que j'avais à faire ne concernait que l'extérieur de l'instrument, en l'occurrence refaire un chevalet, vérifier le réglage ou ce genre de choses. Donc j'intervenais pas sur la structure. Mmh. Hein. Mais c'est un des exemples des miracles presque que peuvent faire les très bons restaurateurs, parce qu'il est évident qu'en 400 ans, l'instrument, il en a vu des vertes et des pas mûres. Mais il est toujours là et il sonne. Hein. Mmh.
Et vous, Marc, vous avez eu un violon de 400 ans entre les mains, mais en règle générale, vous faites quoi ? Vous louez des violons, des violoncelles ?
C'est ça. Luthier, ça peut prendre vraiment pas mal de formes différentes, comme beaucoup de métiers, hein, selon ses choix ou les circonstances. Vous avez des luthiers qui sont très spécialisés dans la restauration, dans la fabrication, des gens qui ne fabriquent que des violons et même pas de violoncelles, par exemple. Mmh. Et moi, c'est l'inverse. J'aime appeler ça luthier de ville, ouais, ou luthier généraliste, c'est-à-dire que... Voilà. Ouais. Donc, je fabrique différentes choses, je répare. Il y a certaines réparations ou restaurations très pointues que je confierais plutôt à certains confrères. Et puis, je vends des instruments d'études, des instruments avancés, et je loue beaucoup aux élèves des écoles de musique.
Alors c'est vrai qu'en parlant des élèves, Mia est élève au conservatoire. Les Volk font tout au long de l'année énormément d'ateliers dans les centres sociaux pour des enfants défavorisés, peut-être aussi leur faire comprendre combien la musique est importante. Et vous avez un lien très, très, très fort, très personnel avec l'Ukraine, hein, parce que l'Ukraine, c'est un pays de musique.
Mais c'est un pays d'excellents musiciens. Les événements que nous connaissons font que... Personnellement, j'ai été très exposé, j'ai rencontré et hébergé pas mal de personnes. Et voilà, autant, par exemple, en France, on l'a senti à l'époque du confinement, la musique, l'instrument de musique, ça pouvait être un compagnon extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a énormément d'enfants ukrainiens scolarisés animateurs, mais j'ai quand même eu deux jeunes adolescentes qui avaient dû partir de là-bas sans leur instrument et qui sont venues en emprunter un, en louer un pendant un an parce qu'elles en avaient besoin pour vivre.
C'était vital.
Voilà.
Et vous êtes en colère parce que...
Alors je suis en colère d'abord parce que, oui, parce que la préfecture du Gard, je pense à la petite Macha qui a appris le français aussi à une vitesse extraordinaire, elle a dû repartir en Ukraine parce qu'on a refusé de renouveler les titres de séjour de sa famille. Voilà, mais au-delà de la colère, j'aime parler de ces choses-là aussi pour rappeler que le métier de luthier, c'est pas seulement un métier technique. Si j'étais toute la journée seul dans un atelier poussiéreux à gratter du bois, je crois que je serais beaucoup moins heureux que le jour où elle est venue toute souriante me parler français pour me rapporter son violon, quoi. Ouais.
Donc c'est un, et les Volk le font très bien, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen de sociabilité. Et toi, Mia, quand tu joues du violon au conservatoire, c'est aussi un moyen de partager ou c'est très individuel ?
Alors pour moi, la musique, c'est un moyen d'avoir un partage entre le public et le musicien. Et aussi une manière un peu de, individuellement, de se... mettre à nu, en fait, face à son instrument. Voilà.
Alors, tu as posé une question sur les cordes. Alors, je vous propose, Marc, vous avez choisi deux morceaux, justement, pour illustrer... Vous aviez prévu les questions qui doivent...
oui, enfin, alors, en l'occurrence, oui, j'avais envie de vous faire entendre des œuvres qu'on n'entend pas souvent... Le Festival des Volk, cette année, le compositeur historique qui est représenté, c'est Mozart. Et là, je vais prendre à peine le contre-pied en vous faisant entendre un morceau de Beethoven, mais dans sa période de jeunesse, qui se rapproche beaucoup de Mozart.
On pourrait se tromper, presque.
Voilà. Et jouer sur ce qu'on appelle des instruments d'époque, c'est-à-dire des instruments préparés avec des cordes en boyau, pour avoir une sonorité beaucoup plus ample, plus aérée. Voilà, donc c'est un trio, violon, alto, violoncelle, qui permet de bien entendre les trois instruments distinctement les uns après les autres aussi.
D'accord. Et comme ça, vous répondrez aux questions.
Vous allez voir, c'est charmant.
Après. Alors sur Radio Alliance Plus, un long morceau, enfin 4 minutes 30, et vous trouviez, Marc, hein, qu'il fallait l'écouter en entier. Mais vous allez répondre maintenant à la question de Mia. Donc la corde en boyau, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça a comme effet ?
Alors, globalement, les instruments, ils n'ont pas cessé d'évoluer. Il y a plein de choses qui sont différentes entre la façon dont ils étaient construits et préparés il y a un siècle, il y a deux siècles ou aujourd'hui. Pendant très longtemps, on n'a pas su fabriquer autre chose que des cordes en boyaux, boyaux de mouton au passage, hein, pour tordre les croyances sur les boyaux de chat, parfois boyaux de bovin aussi. Mais, donc on ne savait faire des cordes que comme ça, jusqu'à la fin du 17e siècle, vers les années 1680, où on a trouvé le moyen d'enrouler du métal autour de ce boyau, mais l'âme restait encore le boyau. Eh bien, ça donne une sonorité qui est tout à fait différente. En termes de timbre, en termes de répartition, ce qu'on appelle les harmoniques, pour le musicien aussi en termes de souplesse sous les doigts, parce que par rapport à la plupart des cordes modernes, probablement l'élasticité, la souplesse longitudinale dans le sens de la longueur de la corde est très différente.
Donc ça demande une adaptation au musicien.
Alors jouer. Ça demande vraiment une adaptation. Ouais. Donc quand on parle, vous allez voir sur le programme des vols qu'il y a un certain nombre de concerts où il est précisé sur instrument d'époque. Il est presque impossible de jouer à chaque fois une œuvre sur des instruments qui auraient été fabriqués exactement au même moment. Par contre, on a maintenant suffisamment de connaissances pour préparer les instruments et choisir les archets, parce que c'est absolument essentiel, d'une façon le plus fidèle et conforme possible à ce qui se pratiquait à cette époque-là.
Mais tout violoniste ou violoncelliste peut s'adapter ou il y a des gens...
Non, ça demande du travail. Ça demande un peu de travail. Alors, plus on remonte dans le temps, quelque part, plus ça devient un peu difficile.
C'est comme pour les pianos, jouer sur un piano ancien.
Voilà, voilà, c'est ça. Disons que le plus difficile, on peut prendre, il n'y a pas besoin de prendre un violon qui serait spécifiquement construit pour le baroque, mais on prend un violon moderne, on met des cordes en boyaux et on prend un archet baroque. On a déjà de quoi s'occuper pour le faire sonner bien convenablement.
Tu as déjà joué sur un instrument ancien, bien ?
Alors, j'ai jamais eu la chance de pouvoir le faire. Par contre, j'ai pu essayer de jouer avec des cordes en boyaux. La difficulté dessus, c'est que alors, notre instrument ne sera pas accordé de la même manière. Mmh. Et donc, du coup, il va falloir reprendre en fait, tout un travail de technique.
C'est ça, même la justesse doit changer.
Pour justement énormément travailler la justesse, parce que c'est pas du tout la même.
Bien sûr. Oui, c'est ça. Je me souviens de Tima, qui est fabuleux quand il joue sur des instruments.
Bien sûr.
On a l'impression qu'il a une naissance, absolument.
C'est ça. Et alors, pour répondre peut-être différemment à ta question, hormis la physique des cordes ou les sensations pour le musicien, je dirais que dans la période baroque et avec les cordes en boyaux, on est beaucoup plus dans un son qu'on laisse se déployer et s'épanouir. On presse assez peu dans la corde parce qu'elle le supporte moins. Donc on laisse le son remplir l'espace, ce qui permet des mélanges entre les voix, des instruments et les harmoniques qui sont vraiment magnifiques. Alors que dans la période moderne, qui est beaucoup hérité du bel canto italien du 19e siècle, on cherche à concentrer le son pour le projeter, pour que ça aille dans une grande salle jusqu'à la dernière rangée de fauteuils. Ce qui est une contrainte qu'ils n'avaient pas à l'époque baroque, parce qu'il n'y avait pas les grandes salles comme ça.
Mais je pense à une question, Marc. Tout luthier est lui-même mélomane, est lui-même violoniste, violoncelliste, ou pas nécessairement ?
Tous, non. Il y a de tout. Mélomane, je pense, oui. Quand même.
On sent déjà ce que vous avez choisi comme.
J'ai des confrères qui ont un niveau de concertiste.
Ouais.
Alors, seule réponse finalement qu'on peut faire, c'est que de nos jours, maintenant dans les écoles de lutherie, partout en Europe, si on ne joue pas déjà d'un instrument, on est obligé de se mettre à en apprendre un.
D'accord.
Et alors, sans parler d'être capable de sortir un son parfait ou une œuvre compliquée, se mettre à la place du musicien, sentir ce qu'il sent, comprendre les questions de confort, d'ergonomie, de réponse de l'instrument, ça, en 2-3 ans de pratique, on peut commencer déjà et c'est très très utile au quotidien.
Alors, pour continuer un peu cette démonstration réponse aux questions, on va écouter le deuxième extrait. Alors, je ne connais pas, j'ose dire. Hein. Rogelio Huguet Itachel, je ne sais pas si on dit à l'espagnol
je parle
ou pas.
Pas espagnol non plus, Rogelio. Ouais.
Là aussi, on va l'écouter.
Donc, c'est un compositeur espagnol très très peu connu qui vivait en France dans les années 1930. Et là, c'est une œuvre pour violoncelle seule, montée, jouée sur un instrument moderne, avec un son qui n'a rien à voir avec le premier extrait, qui est presque un peu métallique, presque un peu rêche. Mmh. Mais qui convient très très bien, je trouve, avec le propos et avec l'œuvre, que je trouve très belle. Voilà, j'ai choisi ça parce qu'il me semble que la cohérence, c'est quelque chose de très important. La cohérence entre le son et l'œuvre et ce que le musicien veut transmettre comme émotion.
Alors j'espère que nos auditeurs sont comme bien, c'est-à-dire écoutent avec attention et se disent quelles sont les différences. Pour vous, ce choix, vous parlez beaucoup de cohérence et c'est important justement de comprendre un petit peu comment un musicien travaille avec son instrument.
C'est ça, puis c'est une façon de dire aussi que le travail du luthier, c'est souvent d'arriver à comprendre justement ce que le musicien recherche. Et il faut savoir, ce que beaucoup de gens certainement ne perçoivent pas, que le son d'un instrument, ce n'est pas quelque chose d'absolument définitif qu'on ne changerait pas. Le même instrument, on le sait, entre les mains de deux musiciens, ça ne donne pas le même résultat.
Ah, oui. Et puis la chaleur, les températures...
Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on subit.
D'accord. Hein.
Alors que l'archet, déjà, peut changer énormément le son, même deux archets modernes. Hein. Il faut trouver l'archet qui fait le mieux sonner. Mais le luthier, il a encore d'autres outils à sa disposition au niveau du réglage ou du montage en fonction de ce qu'attend le musicien. Mmh. Et vous avez des musiciens qui, pour simplifier, ont un mouvement d'archet assez rapide avec peu de pression. Et puis d'autres qui vous font la même chose avec très peu de mouvement et beaucoup de pression.
Ouais.
Ça donne un résultat qui est complètement différent, mais si on appuie plus sur l'instrument, il faut que l'instrument soit adapté à ça dans son réglage.
Il faut qu'il puisse répondre à la demande du musicien.
Voilà.
Donc ouais. On reprend cette idée aussi que c'est un métier avec l'être humain, hein, puisqu'il faut que vous vous adaptiez
à
la personne.
Oui, oui, ça, il faut l'échange. Oui, oui. C'est pourquoi il y a beaucoup de musiciens qui, lorsqu'ils ont trouvé un luthier avec qui ils s'entendent bien, qui perçoit leurs besoins, ils restent fidèles et ils traversent la France quand ils ont déménagé pour aller chez le même luthier.
C'est
quoi.
Ça la renommée. Ouais. Alors, on aborde un petit peu le dernier point, parce qu'il faut venir le 6 décembre de 12 à 18 heures pour avoir des réponses plus complètes. Quelques mots sur la fabrication. On est dans votre atelier, là. Je vois les yeux de Mia qui regardent tout. Même Dorian regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'instruments. Moi, ma question, c'est... Là, il y a un violoncelle en fabrication. C'est quel bois ?
Alors là, c'est le fond d'un violoncelle. C'est donc de l'érable, qui est un bois dur quand même. Hein. Ça se travaille, on travaille à la main avec des gouges et des rabots. C'est un peu comme si on travaillait du noyer ou du chêne. Et donc, je prends mon temps parce qu'il faut ménager ses épaules et ses coudes. Je
n'ai
pas envie d'attraper une tendinite, j'en ai déjà eu. Voilà, l'air de rien, c'est parfois physique et...
Oui,
oui. En particulier les violoncelles. Ah oui, oui, ouais. C'est vraiment manuel et on utilise très très peu de machines.
Hein. Ouais. Ben, on voit tous ces outils, hein. C'est un vrai établi de bricoleur.
Ah ben, c'est pas du bricolage.
Je sais que j'allais le vexer. Je l'ai dit exprès. Oui. Non, mais je veux dire, il y a une variété de... Il faut du très
beau
matériel.
Après, c'est aussi parce qu'on aime ça.
Bien sûr.
Quand on fait ces métiers-là, on aime les outils et puis on cherche parfois l'outil qui va vous permettre justement d'être efficace et de peut-être aller plus vite ou avoir plus de plaisir aussi dans le geste et pour arriver au résultat.
Mais merci Marc de nous partager cette... vous voulez dire que... Non, on ne parlait pas de passion, mais si, je vais reparler de cette passion. Nicolaus Hoffmann aussi nous partagera sa passion. Redire que c'est vraiment un événement exceptionnel hein, de le rencontrer.
Oui, je crois qu'on a vraiment de la chance.
La chance.
Oui.
Et puis, donc, il faut faire la publicité, Mia, auprès des élèves du conservatoire.
Je m'en occupe, mais il y en a déjà pas mal qui sont informés, parce que justement, c'est une grande chance.
Je rappelle, le mercredi 6 décembre de 12 à 18h, Salteris à Daudet, c'est gratuit. Venez avec vos questions et avec vos yeux grands ouverts. Merci Marc.
Avec
merci
plaisir.
Mia. Merci Dorian. Et à rendez-vous le 6.
À bientôt.
À bientôt.
Alliance Plus.